Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un rassemblement en mémoire de Jina Mahsa Amini, tuée il y a un an à Téhéran, compte rendu de conseil municipal à la ville de Rennes, de la musique dont une nouveauté, une interview pour enfin comprendre ce que c'est le DAB+, la radio numérique terrestre déjà arrivée à Rennes, et puis recommandation, une rencontre en librairie. Bienvenue dans La Reine. Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. Un rassemblement à venir ce mercredi 20 septembre en mémoire de Jina Mahsa Amini, cette jeune femme kurde morte le 16 septembre 2022 suite aux sévices infligés par la police des mœurs iraniennes. Rendez-vous pour participer au rassemblement rennais à 18h place de la République à l'appel de l'Association des femmes kurdes de Rennes, du Centre démocratique kurde de Rennes, toujours, de l'Association Amitié kurde de Bretagne, du Comité internationaliste Cyril Dan Roison. On les reçoit d'ailleurs en fin de semaine dans l'arène et puis également co-organisé par la gauche éco-socialiste d'Ille-et-Vilaine. Il y a un an, la mort de Jina Mahsa Amini avait provoqué un soulèvement sans précédent en Iran, dans le Kurdistan et à travers le monde. Soulèvement marqué du slogan « Femme, vie, liberté ». Le Kurdistan, on le redit, c'est un peuple, une culture et une région qui traverse les frontières de plusieurs pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et donc l'Iran. Les organisateurs du rassemblement rennais de ce mercredi nous rappellent que ces populations kurdes ont été en première ligne dans le soulèvement iranien et particulièrement visées par la répression. En tout, 22 000 arrestations ont été comptabilisées, parfois suivies d'actes de torture en prison, et 500 personnes ont été tuées lors de manifestations. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on passe au compte-rendu de conseil municipal. On poursuit avec maintenant un retour sur le conseil municipal du lundi 18 septembre. J'ai un tout petit peu de retard. C'était le premier de la rentrée pour les 61 conseillers et conseillères municipaux de la ville de Rennes. Comme à chaque fois, ça se passe à l'hôtel de ville à partir de 17h et 70 points étaient inscrits à l'ordre du jour lundi pour une séance qui a duré près de 6 heures. La séance, elle débute toujours par une parole laissée aux habitants. On a ainsi pu entendre le collectif Halte au bétonnage du parc des Gailleuls remonter contre un projet de construction d'une mosquée. La grande mosquée El Amal, qui est attendue avec impatience par l'association Espoir Amal, ce serait la plus grande mosquée de Bretagne et dont l'aménagement est prévu sur 3000 m² d'une zone espace boisé classée. C'est le choix de ce terrain qui déçoit le collectif en question. Une pétition est en ligne sur mesopinions.com et a d'ailleurs déjà réuni plus de 4000 signatures en ce sens. Extrait de la réponse de Marc Hervé, adjoint à l'urbanisme auprès de ce collectif Halte au bétonnage du parc des Gailleuls.
Il y a peu de terrain constructible du fait de ce que vous indiquez, de ce qu'est la qualité du projet urbain qui est plutôt porté sur le renouvellement urbain, mais pour ce type d'équipement, nous avons souhaité partir sur un terrain nu et constructible. Et enfin, en proximité des transports en commun. J'y reviendrai. En 2019, l'association a indiqué se positionner sur l'un des terrains retenus dans le cadre de cette réflexion, à savoir le terrain que vous évoquez, situé rue Paty-Tatelin. Cette préférence a été inscrite dans une convention, mais à ce stade, aucun bail n'a été signé, puisqu'aucun projet précis n'est d'actualité. Cela donnera lieu à débat dans nos instances, puisque vous évoquez la question d'un bail. Forcément que le conseil municipal sera saisi de ce type de délibération. Pour le moment, l'opération ne semble pas suffisamment avancée du côté de l'association pour envisager à court terme un dépôt de permis de construire dans la mesure où l'association recherche encore une partie des financements.
Puisqu'on parle de combat citoyen, un mot rapide sur la manifestation qui se déroulait à l'initiative des associations de soutien aux personnes exilées sur la place de l'Hôtel de Ville en même temps que le conseil municipal. Un rassemblement pour alerter les élus suite à l'évacuation du campement de Fortune dans le parc des Gailleuls. Tiens, encore lui. C'était il y a une semaine. 130 des 200 personnes du campement ont été relogées par la ville et la préfecture. Et les autres, eh bien, elles ont installé un nouveau campement, cette fois dans le parc de Morpa. après les habitants, place à la prise de parole des groupes politiques, à un moment de tribune qui leur est laissé. Je les cite, ces groupes. Il y a le groupe socialiste qui, avec le groupe écologiste, Génération, le mouvement radical et le groupe communiste, forment la majorité. Et dans l'opposition, on retrouve le groupe d'union de la droite libre d'agir pour Rennes et le groupe Renaissance révéler Rennes. Ce dernier, à travers la voix de Carole Gandon, a souhaité dresser le bilan à mi-mandat, le bilan écologique de la majorité. Extrait.
Pour adapter de manière pérenne notre ville au changement climatique, la solution la plus efficace et la plus durable reste de protéger les arbres. Or, depuis le début de votre mandat, vous avez continué d'abattre de nombreux grands arbres sains. La charte de l'arbre adoptée en 2021 et qualifiée par certains de conte pour enfants n'y fait rien. Récemment, les haies bordant le boulevard de la Liberté ont encore été arrachées de façon incompréhensible. Vous vous étiez par ailleurs engagé à planter 30 000 arbres sur la durée du mandat. Vous indiquez en avoir planté plus de 11 000 depuis 2019. Pourquoi d'ailleurs ne pas démarrer votre comptage en 2020 ? Ce chiffre est de toute façon contesté par les associations de protection de la nature. Selon elles, le solde de nouveaux arbres serait négatif entre les plantations dans l'espace public et ce qui est abattu dans l'espace public comme dans l'espace privé. Toujours selon les associations, une bonne partie des jeunes arbres plantés, 30% environ, meurent sur pied par défaut d'arrosage. Bref, un véritable exercice de transparence s'impose sur ce sujet si vous voulez pouvoir démontrer que vous tenez vos engagements.
Poursuit ce compte-rendu de conseil municipal. Suite à la démission de Nadège Noisette, conseillère municipale adjointe aux finances, un nouveau conseiller a fait son entrée dans le conseil. C'est Patrice Depège, un pompier professionnel qui était 52e sur la liste de l'actuel maire de Rennes, en tout cas au moment des élections municipales de 2020. La délégation de Nadège Noisette passe quant à elle entre les mains de Mathieu Theurier, déjà délégué à la logistique urbaine à la ville de Rennes, également vice-président au transport du côté de Rennes Métropole. Allez, on ouvre l'ordre du jour et on commence avec le point numéro 27 du Conseil, l'approbation du programme et de l'enveloppe financière sur le projet de trambus. Le trambus, ce sont en fait des bus électriques qui relieront la première couronne de la métropole via le centre-ville de Rennes, en tout cas pour 3 des 4 lignes, puisque la quatrième ligne reliera, elle, Chartres de Bretagne jusqu'à l'entrée de Rennes. Ces lignes seront articulées avec les parkings relais et stations de métro existants, et également de nouveaux parking relais qui seront créés. Il faudra attendre 2027 pour prendre son ticket de tram dans une des plus de 100 stations prévues. Mais déjà, le trajet de 2 des 4 lignes se dessine. Il s'agit des lignes Grand Quartier Saint-Sulpice, près des Gailleuls, et Vezin-le-Coquet, Cesson, Sévigné. Explication avec Valérie Faucheux, conseillère municipale adjointe déléguée aux mobilités et aux déplacements.
Il est de notre responsabilité de proposer des solutions alternatives à l'autosolisme afin de réduire les charges contraintes qui pèsent sur le budget des ménages, gravement impactées encore plus ces dernières semaines par l'inflation. Alors, poursuivre des investissements structurants et ainsi développer des transports performants est donc une nécessité au bénéfice de tous les habitants de notre métropole, mais aussi au bénéfice des habitants des territoires voisins. Alors, vous redire quand même en quelques mots les enjeux qui expliquent notre choix sur les trambus. D'abord, un enjeu de performance. Ces bus circuleront majoritairement sur des voies réservées et bénéficieront donc de priorité aux intersections par une gestion particulière des hauts feux, afin d'assurer la fiabilité des temps de parcours. Haute qualité de service, car ils fonctionneront selon les mêmes horaires que le métro, de 5h30 à minuit et demi dans la semaine, et ils assureront aussi une fréquence de passage de 4 à 8 minutes selon les lignes en heure de pointe. Un autre second enjeu, c'est l'enjeu de desserte pour les habitants et les zones d'emploi, puisque 200 000 habitants seront desservis, ainsi que 35 000 emplois. Par ailleurs, les voies réservées ne seront pas dédiées aux seuls trambus. En effet, les voies vont être ouvertes aux autres réseaux de bus et de cars. Je pense évidemment au réseau de bus métropolitain, mais aussi au réseau Braise Go, au réseau régional, qui gagneront ainsi en efficacité pour rejoindre la ville de Rennes.
Bon, l'opposition n'est pas très emballée par le projet. Le groupe Renaissance Révélé Rennes regrette la sous-utilisation des parkings relais existants et continue à défendre une extension des lignes de métro en extra-rocade. C'est jugé trop long à faire et puis trop cher par la majorité municipale. Le groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes juge quant à lui la politique de transport insuffisamment ambitieuse. Point numéro 70, un vote sur l'évolution des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires dans les écoles publiques rennaises. Ça concerne donc les accueils du matin et du soir, la restauration scolaire et l'accueil du midi, ainsi que les centres de loisirs. Objectif, proposer une tarification plus juste aux familles les plus modestes à partir de janvier 2024. Depuis 2011, il faut expliquer que la grille n'avait pas été revue et montrait des limites. Alors fini les 13 tranches qui étaient appliquées et place à une tarification individualisée en fonction des moyens et de la composition des familles. Avec pour chaque prestation un tarif plancher à 30 centimes et un tarif plafond de 6,90 €. La hausse pour certaines familles est jugée trop forte pour le groupe Renaissance Révélé Rennes. Avec un tarif, c'est bien de leur dire, mais qui reste bien en deçà du coût réel d'un repas à la cantine. Par exemple, extrait de l'échange entre l'élu Révélé Rennes Laureline Duplessis d'Argentré et l'élu écologiste Mathieu Theurier.
45% des familles verront le prix du repas augmenter et 22% des familles paieront le repas au prix plafond, soit 6,90 €. Ainsi, d'après nos calculs, il faudra payer 6,90 € par enfant par repas à partir d'un coefficient familial égal ou supérieur à 1 731 €. On est environ sur 4 000 € par mois pour en couple, pour deux enfants. On est loin des 7 900 € qui serait le revenu en couple à partir duquel on serait riche avec deux enfants de moins de 14 ans, selon l'Observatoire des inégalités. Monsieur Theurier, en commission, vous avez dit qu'il y avait toujours des perdants dans un système. Tant pis, ce sont toujours les mêmes. Nous vous prévenons, pour LCE, la coupe est pleine. Nous avons souvent évoqué ici le phénomène de relégation des classes moyennes en périphérie de la métropole du fait de la flambée des coûts du logement libre. Qui paie des logements hors de prix, paie des crédits au lourd taux d'intérêt quand ils sont propriétaires, n'ont pas la marge de manœuvre suffisante pour se constituer un apport lorsqu'ils sont locataires? Qui paie plein pot toutes les activités extrascolaires de leurs enfants? Qui paie des impôts? Ils participent déjà grandement au financement des services publics, ne vous inquiétez pas. Et vous enfoncez le clou en leur demandant de payer la cantine encore plus cher, aussi cher que celles et ceux qui disposent réellement de revenus élevés.
On n'a pas eu d'évolution de nos tarifs depuis 10 ans. Oui, pour certaines familles, il y aura une hausse, mais qui n'a pas existé depuis de nombreuses années. Et donc, de fait, comme pour tout tarif de service public, ces évolutions, elles sont aussi inévitables et nécessaires. La réalité de notre territoire, et comme d'autres territoires métropolitains ailleurs en France depuis plusieurs années maintenant, parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits, c'est que les inégalités se creusent. Et que la réalité, mais que vous devez, je suppose, quand même connaître du territoire de la ville de Rennes, c'est qu'on a plus de familles plus pauvres, mais aussi plus de familles plus riches. Et que c'est bien, encore une fois, tout l'enjeu de ces nouvelles tarifications. C'est bien, effectivement, de faire contribuer un peu plus ceux qui le peuvent, pour permettre à ceux qui le peuvent moins de pouvoir eux aussi continuer à accéder aux tarifs publics, tout en restant encore une fois dans des tarifications qui sont supportables et raisonnables, puisqu'elles viennent s'adosser au plus près des revenus et de la composition des familles.
Le point numéro 10 sur la modification et simplification des critères de subvention de fonctionnement pour les assos sportives a été l'occasion d'un coup de gueule pour le conseiller du groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes, Charles Compagnon. Très inquiet de voir apparaître une catégorie non-binaire sur les dossiers de demande des personnes non-binaires qui, avec les femmes, seront désormais un peu plus soutenues par la ville. C'est un choix politique. Je vous laisse écouter une partie de la prise de parole de Charles Compagnon.
Quelles seront les futures revendications et surtout quelles seront les futures exigences et impératifs imposés aux clubs? Des vestiaires non binaires, des équipes non binaires mais non reconnues par les fédérations? Quel imbroglio pour les clubs? On est loin de la simplification. Si la volonté c'est l'accès pour tous, le résultat de tout cela sera exactement l'inverse, chers collègues. Par exemple, dans quelle équipe de foot U11 ira jouer le petit Théo, 10 ans, de sexe masculin, que ses parents auront inscrit comme non binaire? Je vous pose la question. Dans quelle catégorie de natation ira nager et concourir Inès, 13 ans, de sexe féminin, et que ses parents auront inscrit en non-binaire dans les clubs? Concrètement, quelles sont les implications réelles et concrètes de cette nouvelle catégorisation, chers collègues? Au lieu d'inclure, vous établissez un étiquetage fort regrettable qui risque d'ailleurs de produire des effets contre-productifs auxquels vous n'aspirez pas vous-même. En effaçant les catégories femmes-hommes, en accordant plus de points à la catégorie non-binaire, vous invisibilisez les femmes que les dispositifs de lutte contre les discriminations que vous souhaitez mettre en œuvre cherchent pourtant à rendre visibles.
Charles Compagnon, conseiller municipal d'opposition, avec qui on reste et qui a profité du point numéro 44 sur des travaux à Maurepas dans le cadre de la rénovation urbaine de ce quartier pour prendre la parole sur la situation du quartier Maurepas et de la place du Gros Chêne qu'il estime abandonnée par la ville. Réponse de la maire de Rennes, Nathalie Appéré.
Et si je réagis avec véhémence, c'est que les leçons sur ce sujet, en laissant croire que vous auriez la solution, que vous auriez proposée dans le déni même de ce qu'est la réalité de cette question du trafic de stupéfiants qui pose aujourd'hui des questions nationales et européennes, c'est juste de la malhonnêteté intellectuelle. Alors dire que sur ce quartier de Maurepas, nous n'y serions peut-être jamais allés, nous n'irions que dans des conditions exceptionnelles, alors même que c'est un engagement de chaque instant, vous aurez, pour le coup, saisi que nous sommes prêts à accepter beaucoup de choses, nous sommes prêts à comprendre qu'exister dans l'opposition exige parfois de pouvoir créer des polémiques, je le disais tout à l'heure à propos d'un autre sujet, ou de manier l'outrance, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et remettre en cause notre engagement sur le quartier de Maurepas, ça n'est juste pas acceptable, monsieur Compagnon, et vous me trouverez toujours, pour dire dans cette instance, mais aussi auprès des habitants, qu'il ne suffit pas de faire une vidéo tous les vendredis après-midi pour connaître la ville et pour penser que les autres n'y sont jamais. Ça suffit. Sur ce rapport... Sur ce rapport 44, des oppositions, des abstentions. Madame Briérot, 45.
Et on va terminer avec le point numéro 69, à savoir la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, imaginée à partir du 1er janvier 2024, une majoration de 60%, c'est le taux le plus élevé possible qui a été choisi ici à Rennes. À Rennes et dans 15 communes en tout de la métropole. Une décision qui intervient alors que la métropole de Rennes est passée en zone tendue depuis fin août. Ça veut dire que l'accès au logement est reconnu difficile. À Rennes, on compte 7400 résidences secondaires, alors qu'ils ne seront pas toutes concernées par cette majoration, puisque des critères individuels seront pris en compte. Mais l'objectif, c'est bien le suivant, c'est d'inciter plutôt à la résidence principale et de dissuader de l'achat d'une résidence secondaire dans le seul but de louer sur des courtes durées. Les séances du conseil municipal, si vous êtes courageux, elles sont à retrouver en replay sur le site métropole.rennes.fr. Prochaine séance prévue le lundi 9 octobre, toujours à 17h.
Say, had nothing better to do, so good. weekend. Some will just drift on, drift on. Others have plans, but all I know is whoever they may be,
they may be.
I'll see their faces in my gallery.
Vous êtes sur Canal B, vous venez d'entendre le morceau Goodbye to Rosie par Bow Road Band. C'est une nouveauté qui a été repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical, et retrouvée sur l'album Back in the HCA. C'est la réédition en fait d'un album de 1972 qui est donc ressorti là le 1er septembre chez Jakarta Records et Unloop, le disque psyché rock de 4 étudiants british qui refait donc surface là en 2023. L'arène, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit avec tout de suite l'interview du jour. Xavier Millinaire, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes coordinateur de la CorLab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, dont fait partie Canal B au passage. Et ces radios, eh bien, elles passent, elles sont pour certaines déjà passées ou vont passer au numérique. Ensemble, on va donc parler d'un sujet complexe. Je vais faire tout mon possible pour que les auditeurs aient compris à la fin de cet échange ce qu'est le DAB, le DAB+, Digital Audio Broadcasting, le sigle en anglais pour parler de la radio numérique terrestre. Mais on commence avec un mot sur la CorLab. Ce groupement aujourd'hui comprend 20 radios réunies donc au sein d'une coordination. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette CorLab qui n'est pas forcément très visible aux yeux des auditeurs?
Non, puisque c'est plutôt un outil professionnel à destination des radios qui fédère en effet à ce jour 20 radios associatives réparties sur les 4 départements de la Bretagne administrative. L'idée de cette fédération, c'est d'être un lieu d'échange, de coopération entre radios qui ont toutes des singularités éditoriales mais qui partagent quand même un même statut et donc un même fonctionnement. Et donc à la CorLab, on essaie de mettre en partage des problématiques liées à notre activité.
La CorLab, elle a été créée il y a maintenant 23 ans et réactivée après une phase de sommeil en 2010. Vous êtes aujourd'hui 3 salariés et si je lis un peu les missions de cette structure, je vois plaidoyer régional, projet commun, formation, accompagnement aussi, comme sur le gros chantier qu'on va évoquer dans un instant. Il y a aussi un volet qui s'est développé, c'est celui de l'éducation aux médias. Les radios associatives se sont emparées de ce champ-là pour développer un peu leurs actions et ça vous questionne à la CorLab, vous êtes en train donc de mener un projet sur ce point-là.
Oui, tout à fait. Un projet de recherche participative qu'on a initié il y a 18 mois maintenant avec 2 laboratoires de recherche en sciences de l'éducation, puisqu'on faisait le constat que les activités d'éducation aux médias et à l'information s'étaient énormément déployées depuis les attentats de 2015, notamment à Charlie Hebdo, qu'il y avait beaucoup de radios qui cultivaient un savoir-faire particulier parce que c'était dans leur ADN et qu'elles en faisaient depuis longtemps, d'autres s'y sont mises plus tardivement, et qu'il était temps d'essayer de réfléchir collectivement sur nos pratiques, de se perfectionner sous l'œil donc de chercheurs, chercheuses. Et donc ce sont 10 radios qui, dans une instance de recherche, mettent en partage leurs pratiques. Et donc ça va donner lieu à une restitution ces prochains mois, avec beaucoup de collectes de données sur les actions, les pratiques, les entretiens qualitatifs qui ont été menés avec les différents praticiens, praticiennes d'éducation aux médias. Donc c'est un volet fort de notre action fédérale à ce jour.
Dans les dernières actualités de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, la CorLab, il y a eu le lancement d'une nouvelle radio qui s'appelle BOA pour Bretagne On Air. Ça marche aussi avec la version galaise et la version bretonne de Bretagne qui a été lancée au mois de juillet et qui s'inscrit là dans le sujet dont on va parler, l'arrivée de la radio numérique terrestre. Cette radio, elle est basée à Quimperlé et donc on arrive au Digital Audio Broadcasting. qu'on peut vulgariser en le présentant comme l'équivalent radio de la TNT? C'est le plus simple pour commencer.
Oui, c'est une méthode très simple et très juste pour commencer à parler du DAB+. Comme la télévision a fait sa mutation il y a 15 ans de la télévision hertzienne à l'ancienne à la télévision numérique terrestre, et ben la radio, un peu tardivement certes, mais on va en parler, fait aussi sa mutation numérique et donc avec une transition de la FM à la radio numérique terrestre, dite DAB+, puisque c'est la norme technologique qui a été désignée collectivement pour cette transition.
Pour continuer à comprendre un peu, il faut expliquer qu'on ne passe plus donc par les ondes FM qui sont aujourd'hui saturées, mais par d'autres ondes. On parle de radio numérique, mais on parle bien d'un accès à la radio anonyme, sans connexion, qui reste gratuit. Mais on passe sur un nouveau canal. Je ne sais pas si c'est le terme est juste.
Non, c'est très juste, là aussi. Il faut bien comprendre que quand on parle de radio numérique terrestre, on ne parle pas de radio par Internet. Voilà, c'est déjà une précaution importante pour nos auditeurs. Ça demeure en effet une diffusion hertzienne, gratuite et anonyme, qui repose sur des émetteurs et qui garantissent donc l'anonymat, au sens où il n'y a aucune traçabilité des données d'écoute des auditeurs. Et c'est gratuit pour peu qu'on soit équipé d'un récepteur compatible DAB+.
Donc des petits récepteurs qui coûtent de 25 à 55 euros. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui écoutent le DAB+, c'est aussi par leur véhicule, les nouveaux véhicules en étant équipés. Il y a toujours des antennes, mais donc de nouvelles antennes. L'une des grandes différences, c'est que les radios seront désormais plusieurs par antenne. Il va y avoir une mutualisation. Il y a une mutualisation. Il faut que j'en parle au présent.
Oui, il y a, puisque le DAB+ est désormais au présent, se conjugue au présent ici à Rennes en tout cas. En effet, jusqu'ici, chaque radio pouvait déterminer sa propre diffusion et pouvait s'auto-diffuser parfois. Et c'est un élément très très fort hein, dans l'environnement culturel des radios libres. Beaucoup ont revendiqué cette auto-diffusion. C'était des gens très dégourdis, pirates pour certains au départ, et qui assumaient une forme d'auto-diffusion. Désormais, la technologie exige un multiplexage. Alors vous voyez, c'est un peu techno, mais en gros c'est en effet une mutualisation avec 12 autres radios, puisque sur chaque zone, le DAB+ permet à 13 radios de partager une même fréquence. Et le partage de la même fréquence s'opère autour d'un même émetteur, donc ça oblige les 13 radios à s'entendre sur un même procédé de diffusion.
Et c'est là, on parle de fréquences, qu'il faut donc distinguer des fréquences nationales avec les radios, j'allais dire les plus connues, mais en tout cas qu'on retrouve sur tout le territoire, des fréquences dites régionales et des fréquences locales. Canal B est dans la catégorie fréquences locales, continuera à émettre à peu près sur le même territoire avec une nouvelle antenne. Donc c'est là que c'est peut-être un peu complexe à visualiser ces histoires de fréquences qui se superposent.
Oui, d'autant que le déploiement de ces fréquences ne se fait pas forcément au même rythme. Alors c'est pas simple de s'y retrouver, mais en effet il y a trois strates, trois formes de fréquences distinctes. Des fréquences dites nationales, qui naturellement permettent plutôt à des radios dites nationales de couvrir l'ensemble du territoire métropolitain. Donc Radio France, le groupe Lagardère, le groupe M6, bref, on va pas tous les citer, mais au final ça fait deux fois 13 radios nationales qui vont être installées sur ces fréquences. Des fréquences dites régionales qui permettent là à des radios avec un propos géographique plus régional d'émettre. En l'occurrence en Bretagne, ce sont donc 13 radios retenues à l'est et à l'ouest, puisque ces fréquences régionales scindent la Bretagne en deux, mais ce sont peu ou prou les 13 mêmes radios sur les deux zones. Et bien ensuite donc les fréquences locales qui, quant à elles, s'inscrivent sur un bassin de diffusion métropolitain, on va dire, donc l'équivalent d'un bassin de vie comme Rennes actuellement, donc pour Canal B et pour les autres radios rennaises, en DAB+, la zone de diffusion correspondra peu ou prou à la zone FM actuelle, avec même parfois un gain de diffusion en dehors de la couronne métropolitaine.
Et pour Radio Boa, donc nouvelle venue sur le territoire, qui est une radio pilotée par l'association CoreLab+, qui est une association différente de la CoreLab, avec laquelle je vous reçois, elle fait partie des fréquences régionales, ça veut dire qu'on peut l'entendre dans toute la région?
Oui, Radio Boa est un projet qui a été défendu et retenu sur les fréquences régionales, ce qui est une vraie originalité en France, puisque il est plutôt attendu que les radios associatives se positionnent sur les fréquences locales, puisque les radios associatives sont des radios locales de proximité. Mais là, le pari collectif fédératif en Bretagne a été de construire un média qui rassemble toutes les radios pour pouvoir émettre sur toute la Bretagne. Et donc Radio Boa, depuis le mois de juillet, peut être entendu sur toute la région Bretagne. Alors, pas tout à fait toute la région, puisque certains émetteurs devront être allumés progressivement ces prochaines semaines et prochains mois. Mais à l'heure actuelle, ce sont 13 émetteurs qui sont allumés et qui permettent donc à Radio Boa d'être entendu en DAB+, de Fougères à Plogoff, de Porspoder à Redon. Vous voyez, donc y a un bassin d'écoute largement enrichi pour Radio Boa.
Une radio avec des contenus propres et puis aussi la valorisation de contenus produits ailleurs sur les autres radios du réseau de l'Accor Lab. Avec le DAB, DAB+, la radio numérique terrestre, on nous promet plein de choses. Une meilleure qualité de son, plus de diversité dans les programmes et même que c'est plus vert. Est-ce que tout ça c'est vrai et est-ce que, bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix d'y aller?
On n'a pas le choix d'y aller, en effet, puisque c'est une décision qui a été rendue par l'ARCOM, l'autorité de régulation du secteur, donc l'ancien CSA, en concertation avec les acteurs de la radiodiffusion. Mais désormais, voilà, le déploiement du DAB+ est acté et va se poursuivre avec la perspective à terme d'une extinction de la FM. On va en parler, je pense. Alors, la technologie DAB+ demeure gratuite et anonyme, ça c'est certain, c'est acquis.
Pour l'auditeur.
Pour l'auditeur. Pour ce qui est de le caractère vertueux et écologique de la diffusion DAB+, il semble, en effet, selon les premières études, que la consommation énergétique est moins énergivore en DAB+ qu'en FM. Donc la diffusion DAB+ permet en effet de faire des économies d'énergie vis-à-vis de la FM, mais il faut néanmoins intégrer dans le calcul environnemental, et c'est pour ça que je pense que des études plus approfondies devront être conduites. Il faut bien évaluer aussi le coût environnemental du renouvellement de parcs de récepteurs.
On imagine tous ces petits postes de radio qui parfois ont un certain nombre d'années derrière eux et qui vont partir à la poubelle, quoi, a priori.
Ce qui est certain, c'est que pour écouter le DAB+, il vous faut soit une autoradio dernier cri, et le parc automobile meuf est systématiquement équipé maintenant d'autoradio compatible DAB+, pour peu que vous ayez acheté un véhicule après 2020. Mais pour ce qui est des récepteurs domestiques, les petits postes qu'on a dans nos cuisines ou dans notre salle de bain, a priori, ces postes ne permettront pas de recevoir le DAB+, et devront donc être remplacés, ce qui demande donc aux auditeurs de s'équiper en récepteurs compatibles DAB+. Alors dans la grande distribution, on trouve des récepteurs à la fois compatibles FM et DAB+, puisque pendant plusieurs années devraient cohabiter les deux modes de diffusion. Mais pour ce qui est des anciens postes exclusivement FM, se pose la question en effet de leur obsolescence, de leur réemploi, de leur recyclage. Et donc là, il y a une réflexion sectorielle d'envergure qui doit être conduite.
Le sujet, je pense, est peu connu des auditeurs, peut-être parce que le déploiement est encore en cours, et peut-être que parce que quand on achète aussi, par exemple, un véhicule, on n'est pas forcément conscient que la technologie n'est pas la même. Vous venez d'évoquer peut-être la grosse difficulté qu'implique ce déploiement de la radio numérique terrestre. Pendant une certaine période, vont cohabiter donc l'AFM et le DAB+. C'est le moment où je vous demande concrètement ce que cette évolution amène comme bouleversement aux radios associatives, en l'occurrence là regroupées en coordination en Bretagne. C'est avant tout une problématique financière.
En effet, on peut penser en premier lieu à la problématique financière, puisqu'une diffusion en DAB+ constitue une charge de diffusion supplémentaire à la charge de diffusion FM, c'est-à-dire qu'en plus de payer les charges liées à une diffusion en FM et les coûts d'une antenne, l'amortissement d'un matériel et les frais de diffusion électrique en FM, il faut payer la diffusion chaque mois en DAB+, à l'heure où le grand public est très très peu familiarisé à cette technologie. Donc c'est une première difficulté pour les radios associatives, c'est d'affronter cette charge financière et cette double diffusion qui est annoncé pendant jusqu'à l'horizon 2030, a priori. L'autre difficulté, c'est difficulté d'ordre aussi culturel pour les radios qui, pour certaines, ont 40 ans au compteur, ont obtenu leur fréquence de haute lutte. Certaines ont commencé d'ailleurs en étant des radios pirates au départ. Et donc le déploiement du DAB+ oblige à se réadresser à l'autorité de régulation pour obtenir une fréquence DAB+. Et donc c'est pas rien, ça veut dire qu'il y a une nouvelle instruction et la nécessité d'aller rechercher une place, une fréquence dans le cadre de cette technologie. Et puis, culturellement aussi, alors qu'on revendiquait des formes d'autodiffusion qui étaient aussi des exigences de souveraineté hein, pour les radios associatives, ben là, on doit s'allier avec d'autres radios pour valider un processus de diffusion. Donc ça demande une ingénierie qui est un peu technique, faut bien le dire. Et puis ben, l'autre exigence, c'est celle de la pédagogie. Vous voyez, ce qu'on essaie de faire ensemble aujourd'hui, c'est d'expliquer à nos bénévoles, à nos auditeurs, à nos partenaires ce qu'est le DAB+, et ce n'est pas forcément évident.
On a dit que sur chaque antenne, il y avait 13 places pour 13 radios. Ça veut dire qu'il a fallu installer un dialogue avec des grands acteurs publics ou privés et se faire une place en tant que radio associative. C'est peut-être plus simple justement quand il y a une coordination pour porter une voix commune.
Jungle Accord Lab a essayé et essaiera sur les prochains appels d'outiller les radios dans les appels à candidature. Avec quand même quelques garanties prévues par l'ARCOM, à savoir que les radios qui diffusent en FM sur certaines zones bénéficient d'un droit d'accès prioritaire au DAB+. Donc a priori, quand même, il y a la garantie de faire partie demain du paysage radiophonique. Mais en effet, sur toute l'ingénierie de diffusion, de multiplexage, de dialogue avec les autres radios, l'Accord Lab a essayé, modestement là aussi, de produire de la ressource, de l'expertise, pour qu'on puisse affronter ces échéances ensemble.
Vous avez cité l'ARCOM, redonne juste le sigle, l'ARCOM ex-CSA, qui est l'autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques. Les dernières questions, alors là on parle d'un dossier qui a été ouvert il y a très longtemps, puisque les premiers tests ils ont lieu en 2007, il y a eu un peu une mise en sommeil du projet avant d'arriver aujourd'hui au déploiement région par région de la radio numérique terrestre, du DAB+. Aujourd'hui, très concrètement, Canal B, on peut l'écouter sur le DAB+ depuis le mois de mars, le déploiement est progressif, c'est en train d'arriver à Brest pour les fréquences locales, il va falloir attendre 2025 pour que le déploiement ait eu lieu.
Oui, il est important d'apprécier le caractère progressif du déploiement. Là, aujourd'hui, on peut écouter la radio en DAB+ à Brest, à Rennes, sur les fréquences locales et sur l'ensemble du territoire régional sur les fréquences dites donc régionales. Et pour ce qui est donc des autres bassins de vie, on attend là les résultats de l'instruction de l'ARCOM sur 7 bassins de vie supplémentaires en Bretagne. Donc ce sont les agglomérations moyennes comme Quimper, Vitré, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Morlaix, Plouvermel. Donc on aura là aussi donc une offre de diffusion en DAB+ qui pourrait démarrer dès 2025 sur ces zones. Néanmoins, il reste une inquiétude, une incertitude sur ce que sera le déploiement de la technologie DAB+ en milieu rural. C'est-à-dire qu'en dehors de ces agglomérations, pour l'instant, l'ARCOM ne nous dit pas comment la technologie pourra être déployée sur certains territoires, comme par exemple le Trégor, le Centre-Bretagne, le Pays de Saint-Malo ou le Pays de Brocéliande. Et à l'Accord Lab, on s'en inquiète puisqu'il y a des radios adhérentes installées sur ces territoires qui n'ont pour l'instant aucune visibilité sur une possible duplication de leur zone de diffusion actuelle sur ces territoires.
Et qui pourraient être encore plus inquiétés si la FM vient vraiment à disparaître, comme c'est a priori annoncé d'ici la fin de la décennie, en fait.
C'est ce qui est annoncé avec beaucoup de prudence à cette heure. L'ARCOM rendra son verdict en 2024 au terme d'un livre blanc autour du média radio. Voilà, il y a toute une concertation qui est actuellement conduite par l'ARCOM avec pour objectif donc de tracer un horizon, c'est comme ça que les choses ont été dites pour le secteur, avec une date possible d'extinction de la FM. Et au micro de France Culture, il y a quelques semaines, le président de l'ARCOM évoquait l'horizon 2030. Alors ça est en effet après-demain, c'est même demain, donc s'il n'y a pas de garantie de déploiement des AB+ sur certains territoires, alors qu'on nous annonce en même temps la disparition de la FM, il y a forcément des questions existentielles qui se posent pour certaines radios. Et ces questions posent une nouvelle fois la question d'un déséquilibre urbain-rural, et c'est malheureusement à chaque fois
les territoires qui pâtissent un peu.
Exactement.
Quoi. Je vous représente Xavier Millinaire, vous êtes coordinateur de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, des radios qui sont passées ou en train de passer donc à la radio numérique terrestre avec le DAB+, Digital Audio Broadcasting. On vous retrouve la CORLAB en ligne sur le site corlab.org et également sur les réseaux sociaux, et maintenant je le dirai, Canal B peut donc s'écouter sur le 94.0, sur canalb.fr et également sur le DAB si vous êtes par exemple en voiture. Merci beaucoup Xavier.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Drag and the Moon Odor avec le titre It Could Be You sur Canal B. Vous êtes en train d'écouter sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr, voire sur le DAB+, si vous avez suivi l'interview qui vient de se terminer. Interview avec Xavier Millinaire de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, qui nous a recommandé le titre musical que vous venez d'entendre, un morceau à retrouver sur l'album du même nom, It Could Be You, qui est sorti en 2023, le premier disque de cette formation bretonne qui a été lancé en 2021, réunion des groupes Commodore et Moondrag, qui est en ont remélangé leurs lettres et formé ce nouveau groupe. Vous êtes en train d'écouter l'émission d'information locale de Canal B, l'Arène, et on va poursuivre et terminer cette émission avec la recommandation du jour. Et oui, chaque jour, on termine avec des conseils que je vous donne, souvent d'événements à vivre, parfois de choses à écouter, lire ou voir. Aujourd'hui, j'annonce une rencontre avec l'autrice d'un bouquin que je n'ai pas encore lu, mais qui est sur ma liste. Camille Froidevaux-Métairy est philosophe et elle a passé du temps en immersion dans une maternité en région parisienne. Si je ne dis pas de bêtises, elle y a rencontré des femmes enceintes qu'elle a interrogées sur leur expérience vécue de ce corps enceint. Ainsi, Gros Ventre, c'est l'ouvrage tiré de cette immersion. Avec une perspective féministe de libération des corps. L'ouvrage est publié aux éditions Stock et sera donc présenté au public jeudi 21 septembre à 18h30 dans la librairie indépendante Comment Dire. Vous retrouverez cette librairie dans la rue Jules Simon ici à Rennes, et pour plus d'infos, il y a le site librairiecommentdire.fr. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.